This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventuriers, bienvenue à la table des fabulistes pour un nouvel épisode du Cercle des Héros.
Je peux prendre le micro de 2 minutes et après...
Oh là là, j'ai appuyé sur Rec et on utilise le micro. Mais c'est quand même une situation magique, ce truc.
C'est vrai, tu viens de le faire.
J'adore. Et nous sommes avec Pierre Collin, qui nous prête gentiment le moyen de faire ce magnifique podcast en termes de technologie sondière et de lieu. D'ailleurs, t'as ta basse, tu pourrais faire un petit jingle. Je pense que ça va être encore un moment épique de podcast. Et jingle.
Ah, wow. Excellent. C'est bon ça.
Comme il y a 2 joueurs qui sont absents, comme on n'a pas Andy et qu'on n'a pas
Nova,
eh ben on va se faire un petit, on va se tenter un truc, un peu un flashback.
Ouais.
Sur
5
ans auparavant.
Ouais.
Après on va manger et après on fera quand même la suite de l'histoire. Et j'ai trouvé une combine.
Ok, ouais. La combine, ouais, ça marche.
Il y a la combine de Andy est mort.
C'est comment le truc qu'on a fait?
Le cercle des héros.
Ah oui, tain, il fallait
c'est
qu'on
déjà un tube. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Allons-y. Nous sommes 5 années avant votre départ. Vous avez vos habitudes, c'est-à-dire que vous faites vos ablutions, vous vous levez le matin, vous avez entraînement aux armes, vous avez méditation, vous avez cours de théorie, survie en milieu hostile. Et ce matin, vous avez votre cours d'histoire sur les peuples et les baronnies de Sirius, donné par le professeur Lil Potamiel, un alphelin vêtu d'une grande toge verte émeraude, parce que maintenant j'ai compris que le vert c'était émeraude et le rouge c'était rubis, donc une belle toge verte émeraude avec une longue moustache qui lui remonte presque jusqu'aux yeux. Et son cours a commencé il y a 20 minutes. Même si c'est un cours régulier, il n'empêche pas que c'est toujours un moment un peu soporifique et difficile pour vous de suivre. Et c'est pour ça qu'il s'empare d'une petite craie de fusain qu'il lance sur Moyo Coyotine.
J'ai l'impression que je vous embête, Moyo. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que je viens de dire ? Quels sont les usages, us et coutumes que nous devons adopter face à un baron ?
J'essaie de chercher du regard du coup mes camarades dans la classe et du coup ils ont exactement le même regard que moi.
Il faut s'incliner.
Ah oui, voilà, j'entends du coup Kayal qui me dit dans l'oreille qu'il faut qu'on s'incline quand on croise un baron. Il faut aussi que si on est armé, eh bien, on mette notre main sur le pommeau de notre arme ou la main en évidence pour montrer que nous sommes de manière,
pacifiste.
Voilà, pacifiste. Si on porte aussi un chapeau, eh bien, du coup, on le retire et en disant juste bonjour.
Très bien. Ne vous n'étiez pas dans tous vos états. C'est tout à fait ça. Puisque Mademoiselle Kayal est si studieuse et qu'elle est là pour vous aiguiller, je vous pose donc une question, Kayal. Quel vous semblerait être un cadeau diplomatique digne d'un baron ?
Cadeau diplomatique
C'est-à-dire que vous avez été missionné par le maire d'une bourgade ou un keftos et vous avez besoin de, admettons, faire signer un traité de paix entre deux baronnies qui sont en conflit. L'une des baronnies vous a missionné pour défendre leur parti et quand vous arrivez vers la baronnie opposée, vous arrivez avec un cadeau diplomatique. Quel est, selon vous, un bon cadeau diplomatique qui mettrait ce baron dans de bonnes dispositions pour écouter votre demande ?
Si je viens d'une autre baronnie, je dirais une spécialité de la baronnie. Quelque chose qui soit assez distinctif, hein, qui soit bien représentant de cette baronnie pour montrer que c'est une offre de paix. Comme une bouteille de vin ou une spécialité locale à manger ou quelque chose comme ça. Ou un bel artefact, quelque chose qu'on a récupéré, quelque chose qui a une certaine valeur.
En effet.
Moi, j'aurais pas fait ça.
Alors, qu'auriez-vous fait, Maître Coriolis ? Dites-nous.
Moi, en fait, je pense qu'il faudrait faire un cadeau qui s'adapte au baron, en fait. On va pas faire le même cadeau... au baron de Picmordre, qui est un firlin dans sa citadelle, et au baron d'Orplaine. En fait, il faut essayer de flatter l'interlocuteur.
Du vin ou de la nourriture, ça plaît à tout le monde. Tout le monde mange, tout le monde boit.
Je sais pas, il y a peut-être des gens qui pourraient se sentir insultés.
Votre idée est intéressante. Par exemple, si vous étiez en compagnie du baron, disons, de Racine, qui est l'oracle... Teta Cocatine, que lui offririez-vous ?
Ah bah dis donc, là j'irai demander à mon copain Moyoc, est-ce que les hommes lézards aiment ?
Du coup, je me lève avec ma tête parce que j'étais en train de griffonner sur mon bout de papier en haut un dessin et j'ai pas écouté. Du coup, je le regarde avec des grands yeux et puis je lui dis, tu peux répéter ?
Oui. Nous disions, Moyo, que nous cherchions à savoir quel cadeau diplomatique serait une bonne idée si nous l'offrions à l'oracle Teta Cocatine.
Si tu vas dans un village que tu connais pas et que tu rencontres le chef ou la chef du village, qu'est-ce que tu lui offres pour en guise de bienvenue ?
Oh, en guise de bienvenue, si on est vraiment en conflit avec... De sympathie ?
Oui.
Ouais,
j'attends une réponse.
Clairement, une armure d'écaille.
D'accord. Bah voilà, une armure d'écaille pour le baron de Racine.
Je ne sais pas quel effet sera cela aura sur l'oracle, car l'oracle refuse l'arme et le port de l'armure. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais il est de notoriété publique, et vous devez le savoir.
Les lézards, ils n'aiment pas les armures.
Oui, mais ce sont des hommes serpents, si je ne m'abuse. Après, peut-être qu'entre vous, vous vous faites appeler comme ça, je ne sais pas.
Non, pas du tout. Je regarde Kayal avec des gros yeux en disant... Moi, lézard. Mais, attends, tu t'es cru où, là?
Tu m'as compris. C'est...
Pour votre information, à ceux qui ne le sauraient pas, et vous pourrez le transmettre à votre petit camarade Nova, votre petit camarade qui est encore avec Maître Minéa ce matin et qui se croit supérieur, certainement, et qui n'a pas besoin d'apprendre ce que j'ai à transmettre. Mais bon, bref. Vous apprendrez que l'oracle a ses quartiers et son habitation à Marboué, capitale de Racine. Et que dans cette fédération clanique, il n'y a pas vraiment de chef. Si vous offrez un objet personnel, ce sera probablement reçu comme une offense. Cette fédération clanique et chamanique est basée sur une question d'équilibre et d'équité. Offrez un cadeau qui servira le peuple et la communauté plutôt qu'un cadeau qui servirait une individualité, surtout si cette individualité est menée avec un esprit de combat. N'offrez pas une arme, n'offrez pas une armure.
Des semences, par exemple, je ne sais pas, pour qu'ils puissent planter
très intéressant,
des choses.
Ou... Très intéressant. Bien meilleure idée et bien plus personnelle et recherchée et qui sera donc mieux reçue. Par exemple, Kegal, qu'offririez-vous si vous rencontriez Arnold Faust, qui est l'émissaire d'Ombre Claire et le conseiller des Neuf Barons? J'attends.
Je réfléchis. Qu'est-ce que j'offrirais? Quelque chose d'assez précieux, je pense. Et je serais envoyée par qui? Je pense que ça dépend aussi.
Imaginons, les barons humains que nous connaissons sont donc les dirigeants de Falaine, le conseil des Neufs et son émissaire présentement Harold Faust. À Orplaine, c'est le baron Emilius de Blême qui dirige la baronnie. À Soifter, dans le désert, qui siège à Sekoela, c'est le baron Tauros El-Kaïb. Quant à Vertevie, c'est le baron Valère Faust. Imaginez que vous êtes envoyé par Valère, le baron Valère Faust de Vertevie, et qu'il vous missionne pour aller rencontrer le conseil des Neufs à Ombre Claire, et que vous vous retrouvez face à son frère, leur conseiller Arnold Faust.
J'avoue que je sais pas trop.
Mais déjà, est-ce qu'il faut faire un cadeau systématiquement à chaque fois?
Voilà une question intéressante. Faut-il faire un cadeau systématiquement?
Ça dépend. Si on est là pour négocier, peut-être c'est bien de les mettre dans des bonnes dispositions. Mais si on est là pour peut-être taper du poing sur la table et demander à ce que certaines choses s'arrêtent, peut-être on va pas faire de cadeau.
Une armure d'écaille. Au cas où que ça dégénère.
Deux armures d'écaille.
Non, mais moi je pense que dans tous les cas, quand on arrive chez un baron, c'est bien d'avoir un petit présent, mais même si c'est quelque chose de pas forcément très important. Comme je disais, une bouteille de vin, de spécialité locale, un truc comme ça, qui n'a pas forcément une vraie valeur, mais au moins c'est un présent, un signe de respect.
Je vous encourage donc à traiter de manière réfléchie et utile vos missions, car par exemple, vous apprendrez que Arnold Faust est un homme extrêmement porté sur l'étiquette et la hiérarchie.
Oui.
Peut-être qu'avec ce genre d'homme, il est important de respecter quelque chose qui vous semblerait peut-être stupide ou inutile, alors qu'effectivement, avec l'oracle ou encore avec les chamans Momok et Missou de la tribu des Scythes sur Givrefou, quelque chose de plus simple,
oui,
de
conviendrait.
Moi, je me pose vraiment une question, monsieur Potamiel. C'est pourquoi
Potamiel, cher ami.
C'est pourquoi c'est à nous de choisir le cadeau, sachant qu'on est envoyé par quelqu'un pour lui donner. Est-ce que ça serait pas la personne qui devrait choisir le cadeau? Ou est-ce que ça serait à nous justement de juger sur l'utilité du cadeau? Parce que si ça se passe mal, ça veut dire que c'est nous qui allons prendre les coups de massue?
Eh bien, disons que vous apercevrez que souvent vous serez peut-être des émissaires ou des messagers porter un cadeau ou quelque chose qui vient d'ailleurs, mais parfois vous serez amené de votre propre chef à vous retrouver face aux grands de ce monde et il faudra trouver rapidement et intelligemment quelque chose pour vous annoncer. Peut-être que si vous traversez tout le pays d'un bord d'une baronnie à l'autre, vous serez forcé de traverser ses frontières. Et il est de mon ton que des jeunes héros du cercle fassent halte dans les capitales de ces baronnies pour se présenter. Et vous n'aurez peut-être pas de cadeau diplomatique à ce moment-là. Il faudra trouver.
D'accord.
Comprenez-vous?
Oui.
Très bien. Oui, oui. Bon, oui, juste avant de vous libérer...
Non. Excusez-moi. Oui. Du coup, pour, par exemple, Arnold Faust, qu'est-ce qu'on devrait offrir? Qu'est-ce qui serait adapté?
Une étoffe? Une belle étoffe.
Ah oui, une belle étoffe, oui.
Oui, c'est intéressant. Effectivement, sans lui manquer aucun respect, peut-être que l'émissaire Faust est un homme qui aime la... disons, le luxe. Quelque chose qui siérait selon lui à son rang. Et effectivement, en ce cas, je conseillerais un cadeau extrêmement personnel et plus pour s'attirer ses bonnes grâces que pour offrir au Conseil des Neufs. Une
D'accord.
étoffe, c'est intéressant.
Une belle étoffe, hein. Je parle d'un...
Belle cape, comme la mienne.
Un beau de tissu. Hein.
Allez, avant de vous libérer, petite question. Rappelez-moi, s'il vous plaît, quelle race et quel peuple pouvez-vous croiser à Sirius ?
Voilà, il y en a plein, on va tous les dire.
Rapidement.
Il y a des hommes serpents.
Oui, bon, très bien. Il y a des hommes serpents, il y a des gnomes, il y a des tiflins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Les humains, il y en a plein. Les
il y a des orques.
Il y en a plus. Les
orques. Si, des elfes, il y en a. Mais
il y en a plus beaucoup.
Depuis la triade, disons qu'ils ont été massacrés, et ceux qui restent sont des esclaves persécutés, certes, réduits en esclavage dans tout Sirius, que ce soit dans les tavernes ou pour les grands de ce monde, mais vous verrez au cours de vos voyages qu'il en reste bien plus que vous pensez.
Vraiment, en esclavage ?
Complètement.
Mais est-ce que c'est pas un peu injuste, parce que c'est pas du tout eux qui ont causé le bazar, c'est leurs ancêtres ?
Ah, il en est comme ça de notre histoire, et effectivement, le peuple elfe paye très cher le sang versé par la triade et leurs ancêtres. Mais ça sera le sujet d'un autre cours. Mais sachez que, effectivement, bien qu'à Vertevie, il y ait peu d'esclaves, que ce soit une pratique qui n'est pas particulièrement appréciée par le baron... Eh bien, dans d'autres baronnies, vous en croiserez plus d'un. Et ces esclaves ne sont pas traités équilibrement en fonction des endroits où vous irez, malheureusement, mais...
C'est
exactement ça, c'est
Et
la
les
loi.
Tortionnaires, une race qu'on n'a pas citée, les humains.
Oui, bon, pas tous, voilà... Peut-être toi, t'as une mauvaise opinion à cause de ce qu'ils ont fait chez toi, mais bon, c'est pas tous des tortionnaires. Je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient pas que les elfes soient des esclaves.
Ouais, bah j'en ai pas encore rencontré, figure-toi.
Eh bien,
ah ouais.
Peut-être que notre baron Valère Faust pourrait s'exprimer à ce sujet. Il y a quelques années, il a fait remonter au cercle une missive qui serait... une sorte de proposition faite au baron qui pourrait réintégrer le peuple elfe, mais cette proposition a été rejetée à l'unanimité, presque.
Ah, mais c'est par que c'est tous un bon gars, alors.
Comment ?
C'est que c'est un bon gars, enfin, pardon, je m'excuse, monsieur. C'est que c'est un être humain
tout à fait.
Sensible et sensé.
Le baron Valère Faust est un des amis du cercle, c'est en partie grâce à l'argent venu de Roche-sous-Puits que nous pouvons travailler dans ces magnifiques conditions, etc.
Oui, oui.
Nous sommes très soutenus par le baron. Bref, merci. Je ne
aspirants.
Eh bien, merci à vous,
merci,
maître.
Merci, professeur.
Et puis,
je vous libère et vous avez une petite demi-heure avant de commencer vos maîtrises des armes avec vos amis une fois qu'ils auront fini leur... l'apprentissage respectif.
Très bien. Ben écoutez, merci vraiment, c'était sympa.
Merci, même professeur.
Oui.
Et vous sortez. Et vous voilà dans les couloirs du cercle des héros, avec une petite demi-heure à votre disposition. Que faites-vous ?
Je regarde mes camarades et puis je leur pose la question... C'est intéressant là, ce papier, cette espèce de protocole que Valère Faust a proposé. Ça vaut peut-être le coup qu'on y jette un œil ou qu'on.
De quel protocole tu veux bah, parler là,
pour réhabiliter les elfes.
Ouais, pour réhabiliter les elfes. Mm-hmm. Ouais.
Y a une salle des archives en plus de la bibliothèque où tout se trouve à la bibliothèque.
Dans la bibliothèque centrale, il y a énormément d'ouvrages triés en fonction de besoins politiques, religion, etc. Et il y a une réserve qui n'est accessible que par les maîtres
d'accord.
du cercle.
Okay.
Et il y a toute une zone archive, okay. effectivement.
Moi, j'irais bien à la bibliothèque.
Pour chercher des informations sur les gens qui s'opposent à l'esclavage des elfes.
Non, mais pour en savoir plus un peu sur les différentes coutumes des baronnies, etc. De toute façon, on a une demi-heure à perdre. J'ai envie de...
On va la perdre à gagner.
Allez, la Bibli. La Bibli, il est où Andy là ? J'aimerais bien une petite chanson pour nous mettre
Andy,
en
joie.
Il fait son ménage.
Il est sûrement
il fait son ménage.
Au ménage.
Ah là là.
Ok. La bibliothèque, elle se trouve sur la partie basse du cercle, un peu à l'extérieur de vos lieux d'études, là où se trouve la place des artisans, qui à cette heure-ci est assez remplie. C'est la fin de matinée, il y avait un marché ce matin. Plus loin, il y a le collège des cultes qui dresse ses grandes statues de multiples divinités. Et en plein centre, il y a cette bibliothèque avec son énorme toit circulaire et sa boule d'or à son sommet. Vous y entrez ?
Oui.
Oui.
Et vous arrivez dans un grand hall avec un énorme tapis pourpre. Et au bout de ce hall, un immense, très très haut bureau, une sorte de bureau avec une montagne de papier en vrac mêlé aux encriers qui débordent et une petite tête d'un nain avec des énormes poches sous les yeux qui a les deux mains agrippées au bureau avec une espèce de va-et-vient comme ça, comme si il titubait sur lui-même et qui parle dans sa barbe.
Bonjour.
Oui, oh là, une minute.
Ça va?
Oui.
Mais il est sous.
Tu crois? Qu'est-ce que je peux faire pour
vous? Tu sens son haleine?
Vous.
Je vois surtout son comportement.
Mais peut-être il est juste, il a pas bien dormi.
Je vous confirme, je n'ai pas bien dormi. Donc, merci de ne pas faire perdre mon temps. Que voulez-vous ?
Eh bien, justement, on vient de la part de Monsieur Potamiel. Et en fait, il se trouve que peut-être on pourrait vous remplacer à la bibliothèque pour que vous alliez dormir le temps de peut-être de 2 ou 3 heures, le temps que vous récupériez votre sommeil. Et comme ça, on peut prendre votre place, gérer les trucs. En fait, c'est comme en tant que héros, Monsieur Potamier nous a dit que c'était bien d'être humble et d'essayer un peu de voir ce que c'était la vie des gens, du commun et tout. Donc bon, bah voilà.
Il te regarde d'un air un peu sceptique.
Le professeur Potamier vous envoie me relever pour que je puisse faire une sieste.
Oui.
Non.
Enfin, il.
C'est pas vraiment ça. Bah, on vient d'avoir un cours avec Monsieur Potamiel qui était très intéressant. On cherchait donc plus d'informations. Là, vous voyant dans cet état, on se dit qu'on peut peut-être vous aider Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu allais mentir, Saul.
Mais c'est pas du... Mais, c'est... Pour, mais non, mais c'est pas...
Alors que mais... nous, ça part vraiment d'une bonne intention et on cherchait juste à avoir plus d'informations sur les baronnies.
Mais non, mais...
Si vous êtes venu au pied de mon bureau pour faire vos petites... voilà, animosité l'un envers l'autre, ça ne m'intéresse pas.
Pourquoi par vous contre, faites des gestes si avec vos doigts, là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire que... Oh, écoutez, je suis fatigué. Vous voyez ce tas de paperasse ? Je dois en faire des copies parce que les mythes sont en train de manger le papier et j'y ai passé une longue partie de la nuit.
Ah oui, oui, oui.
Et je suis fatigué. Donc, je réitère pour la dernière fois, que puis-je faire pour vous, mademoiselle ?
On cherche où sont rangées les archives sur les baronnies et notamment une lettre qu'aurait écrit Valère Faust, une missive pour défendre les réhabiliter les elfes.
Alors, les archives... Tu sens qu'il ouvre un gros livre, tu sens qu'il cherche, ça a l'air d'être son organisation, mais c'est bien trié. Archives, section B, troisième, quatrième, cinquième... Cinquième dossier, le P23. C'est sur l'étagère du haut. Il faudra prendre la petite échelle, je crois.
Je vous remercie.
De rien.
Merci, monsieur. Mais vous êtes sûr qu'on ne voulait pas qu'on vous remplace Moi, je peux vous remplacer, il n'y a pas de problème.
Non, c'est gentil.
Bon.
Bonne journée.
Vous aussi. Merci. Saul, t'es vraiment insupportable. Hein. Toujours mentir.
Mais non, c'est
pas... Je ne saisis pas bien ton intérêt, mais...
Bah, je sais pas, je me disais que c'était comme ça, on aurait pu voir des trucs dans la bibliothèque. Voilà, peut-être aller dans la réserve, enfin, je sais pas.
De toute façon, il n'y a personne qui nous surveille. Maintenant qu'on est rentré, on n'est pas obligé de...
C'est pas pour ça qu'on doit mentir ou se cacher. Enfin, ou faire des choses...
Non, mais peut-être on aurait pu trouver des choses intéressantes, j'en sais rien, moi.
Vous...
Ça fait 5 ans qu'on y vient, dans cette bibliothèque.
Et justement, il y a des endroits où on peut pas aller, parce que c'est...
C'est interdit, oui, je sais, mais on sait pourquoi c'est interdit.
C'est interdit.
Bah non, moi je sais pas pourquoi c'est interdit par exemple.
On nous l'a dit il y a 3 semaines. On nous l'a redit il y a 3 semaines.
Bah c'est quoi ?
Bah les archives, il y a certaines parties du bâtiment qui sont interdites pour nous parce que nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui est marqué dessus.
Oui, bon.
Ah bah oui, bah y a plus de mots que ce que tu pensais dans cette phrase-là.
Écoute, donc... ça fait 5 ans que c'est bon, on connaît, on a des...
Allez, allons au B5e.
Allez, on y va.
Pour le P20.
Et en passant, vous voyez, il y a plusieurs... il y a des juristes, il y a des gens de Pied-Falaise, des gens du peuple qui remettent ou prennent des livres et tout. Et vous remarquez une petite tête que vous connaissez, c'est le plus jeune intendant du cercle. C'est un tout petit enfant de... 4 ans et demi, 5 ans, qui a un immense livre sur les genoux et qui est posé sur, adossé à une étagère et qui a l'air d'être absorbé par cet immense livre.
Comment il s'appelle ? On sait ou on ne sait pas ?
Oui, vous le savez. Il s'appelle... Un nom dans ma tête, il s'appelle... Il s'appelle comment ? José ?
Il s'appelle José. Ah, c'est le petit José
c'est
de la dernière fois.
C'est le petit José.
Bonjour, José.
Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes
Salut,
comme
José.
Ça
José.
Ben, en fait, je regarde les livres avec les images.
Bah oui, tu sais pas lire.
Ben non. Mais il y a les images dans celui-là.
Fais-moi voir ça. Je regarde le titre du bouquin, enfin du grimoire. Ou les...
Eh bien, le titre, c'est « Reliques ». Magique de la triade. Mmh. Et vous pouvez me faire un petit jet de connaissances, si vous voulez.
Je fais un critique.
Jamais entendu parler.
C'est quoi connaissances ?
Tu te demandes si c'est pas si c'est pas des recettes de cuisine.
C'est quoi connaissances ?
C'est intelligence.
Intelligence, ouais.
Okay. Avec le bonus.
Ah mais c'est un livre que tu as déjà lu maintes et maintes fois.
10.
Eh bien, C'est marrant parce que effectivement, dans tes jeunes années au cercle,
viens là. Je vais te lire ce formidable livre. Écoute-moi, je vais te raconter une histoire formidable. Il y a bien longtemps, autrefois, il y avait la triade. Et la triade, en fait, elle était constituée de plusieurs personnes. Et ces personnes, eh bien, je vais te dire qui c'était. Eh bien, c'était...
Et effectivement, tu te lances dans un récit passionnant qui parle de la triade, ces trois elfes renégats qui ont asservi le monde et qui ont été vaincus par le premier roi, le roi Osald. Mais cet ouvrage particulier montre les objets magiques disparus, laissés par la triade. Et tu vois que... Il est devant José, il est devant une image qui représente une armure comme vous n'en aviez jamais vu. Une armure complète qui ressemble à une armure de plate, mais presque comme si elle était en braise incandescente. Et toi, tu le sais que c'est l'armure légendaire d'invulnérabilité. Oh là là,
José, c'est l'armure légendaire d'invulnérabilité. Tu sais ce que ça veut dire, invulnérabilité,
de
José?
De Holo. Parce que l'armure la triade, de Holo. C'est Holo, Azel et la reine. La reine blanche. Et donc, c'est effectivement l'armure d'invulnérabilité de Holo.
L'armure d'invulnérabilité de Holo. Grâce à ça, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait lui faire du mal. Il était invulnérable. Et c'est pour ça que ça s'appelle une armure d'invulnérabilité.
Il te regarde avec des grands yeux, mais...
Et elle est où? Ah, eh bien ça, c'est écrit dans le livre. Attends, laisse-moi regarder.
Et effectivement, personne ne sait où cet artefact...
Eh bien, personne ne sait où elle est aujourd'hui, José.
Il est perdu.
Et ça fait quoi?
Et il t'ouvre une page.
Ça, c'est une page.
Et sur cette page, vous voyez une épée auréolée d'une espèce de... Sur la page, vous voyez cette grande épée à deux mains et une espèce d'aura qui émane. Et autour de cette aura sont dessinées des pièces d'or, des rubis, des joyaux, des gens heureux, souriants, des espèces de gravures de gloire. Et donc ça, tu sais que c'est l'épée de chance de Azel.
Et ça aussi, elle est perdue?
Eh bien oui, elle est perdue aussi.
C'est un peu le titre du livre.
Mais tu sais...
Objet magique disparu.
Oui, c'est vrai, c'est un titre du livre. Mais tu sais, José, peut-être qu'elle est par ici, peut-être qu'elle est cachée. Dans le cercle, peut-être qu'elle est cachée dans cette bibliothèque.
Moi, si j'en voulais un, ce serait celui-là. Et il tourne sur une autre page où vous voyez une lyre. Une lyre en or, sertie de petites pierres précieuses bleu nuit. Et ça, c'est la lyre de la reine blanche. Et toi, tu sais que cette lyre, elle avait le pouvoir d'envoûter et d'imposer, d'une certaine manière, d'imposer sa volonté à celui qui entendait le son
de
cette lyre.
José, cette lyre, c'est un peu dangereux hein, comme objet. Hein.
Mais c'est super!
Oui, mais bon...
Moi, c'est pas manier l'épée, puis je suis trop petit pour une armure. Par contre, la lyre veut pas faire.
Oui, mais tu sais, la lyre, c'est la lyre de la Reine Blanche. Et elle s'en servait pour imposer, pour faire aux autres... ce qu'elle avait envie qu'il fasse. Est-ce que tu trouves ça?
Mais c'est super! Moi, je demanderais au gros garçon de faire le ménage à ma place.
Oui, je sais. Mais tu vois bien que ça peut être utilisé pour faire des choses pas très bien. Par exemple, imagine que je me serve de la lyre pour te dire « Eh bien, toi, José, tu vas aller taper Moyokoyodzin. »
Et d'un coup, moi, je me lève comme ça, il monte sur un tabouret.
« Eh bien, tu peux pas parce que c'est parfait. »
Parce que t'es quoi?
Super fait.
Ah oui, oui, ah oui.
Quand
oui,
super
oui,
fait, ah tu oui, peux oui. pas faire les pouvoirs sur moi.
Oui, José, oui, bon.
À ce moment-là, quand j'entends mon prénom, ah bah, du coup, je me retourne et je fais gamienerie. Et du coup, je commence à regarder autour de moi la fameuse étagère, la cinquième étagère de la Libé pour prendre le dossier P23.
Moi, je continue de discuter avec José, il me fait rigoler.
Ok. Toi, effectivement, Moyo, tu sors un dossier où il y a plein de lettres... C'est classé par chronologie. Et effectivement, dans la chronologie, il y a tout un tas de missives, de lettres qui ont été envoyées. Et il y a la lettre que tu retrouves, qui est stockée, qui a été copiée, du baron. Et c'est effectivement un traité qui stipule qu'on pourrait abolir l'esclavage des elfes, les réintégrer sur des tâches de travailleurs où ils seraient payés. Ils auraient de nouveau le droit de posséder des propriétés et ils auraient le droit d'adorer leur divinité comme n'importe quel citoyen. Et il y a un nom, le nom de Valère Faust, et c'est le seul. Dans les gens qui ont
signé ce traité,
c'est le seul.
Du coup, dans ma tête, je suis en train de me dire que la réaction de Sol quand on était en cours avec notre professeur juste à l'instant, juste avant, qui disait que tous les humains sont peut-être pas si tortionnaires là, je suis en train de me dire en fait, il y en a peut-être qui sont peut-être bons en fait finalement. Et je me dis, mais ça vaut le coup peut-être de le rencontrer en fait un peu plus dans le détail, parce que on l'a sûrement vu depuis ces 5 années qu'on est au cercle, mais on n'a jamais pu parler de ça en fait. Il a effectivement été toujours cordial, il a toujours été là, mais pour moi ça reste un humain. Mais là, en voyant ce traité-là et en voyant que c'est le seul qui a signé, change un peu mon point de vue avec lui. Et puis j'aimerais bien lui en parler, savoir qu'est-ce qui lui a amené à cette réaction-là. Et est-ce qu'il est encore dans ce combat-là, ou est-ce que, au contraire, il a lâché l'affaire en voyant que personne ne le soutenait. Et voilà, j'ai ce besoin-là à ce moment-là. C'est cette émotion, et c'est ça qui me traverse par l'esprit.
Je vais vers Moyo. T'as trouvé du coup la page ?
Ouais, j'ai trouvé la page.
Est-ce qu'il y a un compte rendu de comment ça a été du débat qu'il y a eu après ?
Alors,
une sorte de compte rendu de réunion, quelque chose ?
Je cherche du coup dans les pages, et puis après on passe sur un autre traité qui a complètement rien à voir, mais il y a quelques lignes en fait au dos de la feuille, et du coup ça s'est fait hyper rapidement. Apparemment ça s'est fait à Verteville, tous les barons ont été conviés, mais il y en a que quelques-uns qui sont venus. Ça a duré, ils disent que ça a duré même pas une lune, donc du coup ça veut dire juste un petit cycle quoi. Donc à mon avis c'est un traité qui a été bâclé et qui a été
il y a eu une réunion que pour ça, mais qui a été complètement bâclé quoi.
Ouais. Et puis il y a rien d'autre, tu vois bien. Et là je te tends le papier et puis tu relis ce que je viens de te dire.
Okay. Et pendant que elle lit le papier et que toi t'as les yeux qui sont sur cette boîte de missiles, je veux bien que tu me fasses un petit jet de perception, s'il te plaît.
Pendant ce temps-là, moi, je discute avec José, j'essaye de lui raconter des blagues ou des histoires.
Et il se marre, hein. il t'écoute vraiment hyper attentivement. Il fait « Ah oui, ah, mais moi aussi, peut-être un ours pour être un héros
!» Mais oui, bien sûr, peut-être. Enfin bon, il faudrait que tu aies le sang bleu pour ça, mais peut-être.
Mais c'est quoi ça, le sang bleu, le sang azur ?
Eh bien, le sang azur, figure-toi que certaines personnes, comme moi, comme Moïkyodine, comme Kayal ici, eh bien, nous, notre sang, il n'est pas comme toi, rouge. Il est bleu. Et ça, eh bien, ça veut dire que nous pouvons faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Et c'est pour ça que nous sommes au Cercle des Héros, c'est pour apprendre à nous servir des pouvoirs que nous donne notre sang bleu, pour pouvoir aider le monde de Sirius.
Et d'un coup, tu vois qu'il est pris d'une illumination et piouf, il file.
Ok. Oh là là, j'espère qu'il va pas.
On court pas dans la bibliothèque, José.
Oui, reviens. Attends, oh là là, j'espère qu'il va pas essayer de se peindre en bleu ou un truc comme ça.
Bon, combien tu as fait ?
14.
Ok. Ton œil s'arrête, c'est trié par ordre alphabétique de cette ce temps-là sur il y a une semaine de missile de dossier, et tu tombes sur le nom de Sidulero qui attire ton regard.
Oh. Du coup, je la prends avec énergie. Je dis Sidulero, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle dis cette missive ?
Et je te dis ça de suite.
Très bien. Je commence à me décomposer.
Littéralement, non !
Ça fait trop longtemps que je suis là.
Je suis juste à côté de toi. Ça va, Moyo ?
Je te réponds pas.
Je lis avec toi. Je suis au-dessus de ton épaule.
Et cette missive, elle est de Sidulero. Elle a été envoyée à Minéas, au cercle, et elle fait étale de... d'une congrégation de guenaudes, qui sont donc ce qu'on pourrait dire des sorcières, qui se réuniraient à Phalen, et que l'enquête progresse, mais qu'ils rencontrent des difficultés avec les guenaudes, parce qu'on parle de la présence d'une guenaude nocturne. Et ensuite, il demande plein d'informations
à Minéas sur les guenaudes
nocturnes. On leur donne tout ce qu'ils savent dans les archives, à la bibliothèque, sur les guenaudes nocturnes, leurs pratiques, comment on les détruit, surtout, etc. etc. Et ça finit par des mots de cordialement, machin, et c'est signé Sidulero.
Est-ce que nous avons les compétences nécessaires au bout de 5 ans pour savoir ce que c'est une guenaude nocturne? Est-ce qu'on a pu aborder ça avec Minéas?
Ou
une guenaude tout court, déjà.
Alors, une guenaude, oui. C'est le folklore. Tu sais qu'une guenaude, c'est une sorcière. C'est une créature
Plutôt
humanoïde.
C'est une espèce ou alors c'est un rôle?
Non, c'est une espèce. Okay. C'est vraiment une allure de vieille femme avec le nez crochu.
Donc, plutôt sorcière mauvaise réputation, quoi.
Fais-moi donc un jet si tu veux. Je vais te.
Un jet de ?
Un jet de. Bah,
connaissance ?
Connaissance, ouais.
Connaissance et intelligence. Dix.
10 ?
Ouais.
Tu sais que. Tu sais que c'est vraiment des êtres extrêmement maléfique. Tu sais qu'il y a plusieurs espèces de guenaudes, les guenaudes vertes, les guenaudes des marais. Tu sais que ces créatures aiment voler les âmes pour les vendre, les échanger avec des forces démoniaques. Et la notion de guenaude nocturne, tu sais pas grand-chose dessus, à part que dans une congrégation de guenaudes, dans cette race, la guenaude nocturne, c'est vraiment un ennemi très très puissant. Voilà, sur un cours sur monstres et créatures de Sirius, t'as retenu ça.
Moi j'essaye de voir où il est José, genre je demande aux gens, vous avez pas vu un petit, vous savez le petit, là, il court là, José, le gamin.
Bah, si, il courait dans les couloirs, il est parti
en direction
de là-bas.
Ok, merci, j'y vais, j'essaye de retrouver sa trace.
Ok, bah tu lui cours après. Que faites-vous les autres ?
Moi je me retourne vers Kayal, où j'ai bien senti sa présence sur mon épaule en train de lire la lettre avec moi. Et puis du coup, je me retourne, je comprends pas. Et puis là, je commence à déballer un peu mon truc en disant « Sidulero, c'est un nom que je connais. On sait qu'il faisait partie de la promotion des maudits. T'es d'accord avec moi ? Mm-hmm. On sait qu'aujourd'hui, il est mort. On sait aujourd'hui... Enfin, mais on n'a pas trouvé son corps, mais voilà. On sait que il est... Mais enfin, il y a un truc que je comprends pas, parce que ce nom-là, il était déjà apparu dans une missive il y a plus de 5 ans. J'ai vu une missive avec ma sœur qui avait son nom dessus, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et là, j'ai l'impression que il cherche des informations pour enclaver les guenaudes, ou enfin, en tout cas, essayer de réguler les guenaudes.
Alors, ce papier, c'est dans les archives, donc c'est une missive qui date du moment où la
Est-ce qu'il y a la
promotion des maudits
était active.
Okay. Juste...
C'est de la part de eux, c'est de la promotion des maudits, c'est ça ?
Donc ça... C'est exactement ça, et même, tu sais que c'est précisément...
Pendant leurs 365 lunes ? Ça, je sais, ok. Ça, nous le savons.
Donc ça veut dire que c'est eux Ok, ok.
De toute façon, moi, je cherche José.
Oui, d'accord, oui.
Donc la lettre est envoyée, ok. Quand tu dis que tu as reçu une lettre de ta sœur avec... il avait un mauvais rôle ou un plutôt bon rôle ?
Non, c'était un peu particulier. En fait, on a... Dans la recherche de ce qui s'est passé en fait avec nos parents, enfin nos parents du coup ont disparu, on n'a jamais su ce qui s'était réellement passé.
D'accord.
Et du coup dans nos enquêtes avec ma sœur à ce moment-là, je ne savais pas où ça allait nous amener, mais ça nous a emmené sur une lettre où il y avait le nom de Cid Ulero, exactement, qui parlait avec des braconniers, qui avait un espèce de truc ça donnait l'impression dans cette missive là qu'il gérait un groupe de braconniers qui faisait des esclaves, enfin qui géraient des esclaves. En fait, c'était des braconniers humains, c'était pas des braconniers animaux. Enfin, c'était assez particulier. Et du coup, je suis venu ici au Cercle des Héros parce que je savais que il était un sang azur, qu'il était du coup aussi une des personnes qui était dans la promotion des maudits. Et ça s'arrêtait là. Et du coup, à chercher des documents, à chaque fois, je tombe sur des documents qui retracent, en fait, comme celui-là, pendant sa période des 365 lunes, où du coup, ça donne plus l'impression qu'il essayait de faire une mission, sûrement, avec sa promotion, tout simplement, en fait.
Oui, de bien, quoi.
Ouais, il allait chercher de l'information.
D'accord.
Et à chaque fois, je suis sceptique en me disant, mais est-ce que ça cache pas quelque chose ? Est-ce que parce que rien n'est dit dans cette missive. Enfin, tu la lis comme moi, tu vois. Il demande juste à Minéas des renseignements sur une guenaude nocturne, quoi. Donc voilà.
Donc tu te demandes s'il les aide, enfin s'il les protège ou s'il veut les éradiquer, c'est ça ?
Ouais, j'arrive pas à savoir.
Il dit qu'il y a des difficultés avec une. Pour moi, c'est.
Ouais, mais ça veut tout dire. Une difficulté, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec ma sœur. On était en difficulté, mais pas au point que je veux l'éradiquer. Ça veut tout rien dire à ce moment-là.
Oui, mais il enverrait pas une missive à Minéas, qui représente le bien, l'autorité, etc., pour dire qu'il y a des difficultés avec elle, si c'est pas pour l'éradiquer.
Et là, je fais pouf dans ma tête. Mais carrément, en fait, t'as raison. Ben oui. En fait, là, il prend des informations pour aller la tuer, quoi.
Bah oui.
Et puis, du coup, je revois la date en haut de la missive et je me dis, ça date des années et des années. Quoi.
Presque 40 ans.
Ouais. Donc,
en fait, c'est ça, c'est que toi, peu à peu, tu te rends compte que la cible que tu as depuis un moment, que tu recherches, en fait, il a un passé, comme toi. Il a eu une vie avant et qui s'est retrouvé à arpenter les mêmes couloirs, à voir les... Pas les mêmes visages, mais celui de Minéas, si. Mmh. Parce que Minéas a aussi formé les maudits. Et voilà. Il avait probablement pas loin de ton âge et qu'il vivait les mêmes choses. Pendant ce temps, Sol, tu as réussi à suivre José jusqu'au quartier de la ville basse, là où sont les étals des artisans. Et tu vois José qui attend derrière un petit tonneau, non loin d'une échoppe qui vend des pigments. Des pigments colorés.
C'est
là, ça s'appelle la table des couleurs et il est juste derrière un petit tonneau et tu sens qu'il attend une petite ouverture quoi.
Je m'approche derrière lui sans faire de bruit. J'allais dire sans faire de bruit mais.
Trop tard. Il est trop
fou. J'essaye de le choper par les bouches. José, viens avec moi, viens avec moi. José, je sais ce que tu veux faire. Viens avec moi, je vais t'expliquer deux trois petites choses. Viens avec moi. Mais j'ai compris, je suis malin. Moi aussi, tu sais, j'étais un enfant comme toi, et moi aussi. Enfin bref. Le sang bleu, c'est on ne peut pas changer. Même si tu mets de la couleur, ça ne marchera pas. Ça ne va pas...
Mais Minéas, il ne voit pas très bien avec ses lunettes.
Oui, c'est vrai,
si
il ne voit pas très bien.
Peut-être qu'après, je pourrais rentrer, comme ça, je pourrais combattre dans l'arène et tout.
José, désolé, mais c'est... soit on est né comme ça, soit on a le sang rouge. Mais c'est pas grave, il y a plein de gens super forts qui ont le sang rouge.
Et tu sens qu'il a ses petites lèvres qui se pincent comme ça.
Non, mais José, regarde.
Il monte aux yeux.
Non, mais José, mais c'est pas la peine.
Mais je serai jamais un héros.
Mais c'est pas parce que t'as pas le sang bleu que tu peux pas être un héros. Regarde. Eh bien, est-ce que tu as entendu parler de...
De qui ?
Eh bien, je vais te raconter l'histoire d'un gnome qui était mon ami. Il s'appelait Edgar. Et il avait le sang rouge comme toi.
Ah oui ?
Et il était tout petit comme toi.
Ah oui ?
Mais c'était un héros. Tu sais pourquoi ?
Parce qu'il était fort.
Exactement, il était très fort. Ouais. Et tu sais pourquoi il était très fort ? À quoi il était très 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 fort ?
Non.
Il était très fort pour être discret. Il était très fort pour être discret. Il se cachait comme ça dans les rues et comme ça, personne ne pouvait le voir. Et quand des brigands arrivaient, eh bien, ils pouvaient prévenir tout le monde. Comme ça, tout le monde allait se cacher.
Mais moi aussi, je sais faire ça.
Mais
discret,
oui,
me cacher.
Mais tu vois, ça peut être ça aussi, être un héros. On n'a pas besoin de mettre de la peinture ou quoi que ce soit.
Et tu vois qu'il a vraiment... il renifle comme ça. Il...
D'accord.
Ah. Allez, va jouer, José. Allez. Va donc...
Il faut que j'aille travailler, sinon Klaus il va me respecter encore.
Ah oui, encore. Bon, bah, va travailler, alors. Oui, sois pas en retard.
Allez, je vais raconter en Andy ce que tu m'as dit.
Ouais, d'accord.
Et il file.
Bon. Eh ben, je vais être en retard en cours. Il va falloir que je me dépêche.
Effectivement. Ça va être l'heure d'aller... récupérer Nova, comme vous en avez l'habitude de temps à autre, aller la récupérer dans la pièce où elle pratique souvent méditation et combat en privé avec Minéas pour aller à votre entraînement à l'arc et à l'épée.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir sur le Ko-fi, lien en description, et à partager en masse nos épisodes et à mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément et ça nous permet de faire vivre ce podcast. Bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.